Vous écoutez un QDM de poche, un mini-épisode sur un objet culturel à la sauce Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel. Accompagné de l'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Julie Amaï.
C'est parti! Bienvenue dans ce QDM de poche, un mini-épisode sur l'actualité culturelle vue par le prisme du genre. Alors c'est le printemps des séries en ce moment et on ne sort plus de chez nous à cause de Shrill, Pure, Pen15, The Good Fight, The Bold Type, mais aussi Better Things, On My Block, Good Trouble, Scam, France. Voilà, il y a énormément de séries. Mais au rayon dysfonctionnel mais attachant, on va évoquer cette semaine la série des séries, c'est-à-dire la tragicomédie Fleabag, dont la deuxième saison a été diffusée en Angleterre sur la BBC One et à partir du mois de mai en France sur Amazon Prime.
The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich super sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just gonna ask her. I'm just gonna come.
Do you need to borrow money?
No.
Salut, Julie.
Salut, Clémentine, ça va?
Oui, et toi?
Super.
Alors, est-ce que tu as aimé?
Ah bah ça, suspense, on va garder un peu nos impressions pour la fin, on va peut-être déjà expliquer de quoi il s'agit et d'où vient cette série.
Alors d'abord, l'autrice et l'actrice de la série, c'est la Britannique Phoebe Waller-Bridge.
I'm Phoebe Waller-Bridge.
Qui est-ce? Eh bien, tout simplement, une actrice ratée du théâtre classique.
Comment l'a présentée
Reconvertie, comme tant d'autres, au petit écran, mais avec brio. En fait, elle a rencontré sa meilleure amie et elles vivent toutes les deux une romance fusionnelle qui est très comparable à celle d'un couple. Et donc ensemble, elles ont écrit un spectacle seul en scène qui s'appelait Fleabag, qui était donc une forme d'autofiction qui a été jouée au Festival d'Édimbourg et qui est jouée en ce moment sur scène à New York et qui est donc adaptée aujourd'hui en série télé. C'est de ça dont on va parler. Alors en fait, Phoebe Waller-Bridge, elle s'est vraiment lassée de passer des castings et d'être tout le temps recalée. D'ailleurs, elle a été refoulée de la série Downton Abbey parce que son audition était trop drôle apparemment par rapport au personnage. Et donc, elle ne trouvait aucun rôle qui lui plaisait. Et donc, elle a décidé d'écrire elle-même un personnage de jeune femme brillante, quoique assez inadaptée. Ensuite, elle a fait la série Killing Eve, dont on a déjà parlé dans le podcast, une série sur une serial killeuse dont la saison 2 est diffusée en ce moment.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur l'échelle de la folie, elle est bien perchée. Je parie qu'elle avait déjà tué avant d'en faire son métier.
Et elle va également participer à l'amélioration du script du prochain James Bond.
Yeah.
Donc voilà, elle arrive à la rescousse. Et si vous êtes particulièrement attentif, elle joue aussi le rôle d'un robot dans Solo, A Star Wars Story, qui est sorti l'an dernier.
Il faut être très très attentif.
Voilà, c'est ça. Et dans la série, c'est une grande jeune femme à l'allure un peu rétro et à l'impeccable timing comique qui fait preuve d'une très grande plasticité dans ses mimiques. Donc la saison 1 de Fleabag, ça a été diffusé en 2016 et elle a connu un très très large succès, en tout cas en Angleterre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Julie?
Oui, alors la saison 1 en France était déjà diffusée sur Amazon Prime. Donc on y découvre une jeune femme londonienne qui oscille entre plusieurs mecs, le café qu'elle a ouvert et puis sa famille. En fait, on apprend qu'elle vient de se séparer de son petit ami et elle est à l'affût en fait de la moindre rencontre. Le sexe est hyper présent dès les premiers épisodes. D'ailleurs, dans le tout premier, la scène d'ouverture, c'est elle qui ouvre la porte à son plan cul et accepte de se faire sodomiser pour lui faire plaisir.
You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you? And then you open the door to him like you've always forgotten he's coming over. Oh! Hi.
Ça commence bien.
Voilà, faut rentrer dans le bain par la grande porte. Et sinon, on apprend également qu'elle a perdu sa mère lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle vient tout juste de perdre sa meilleure amie, donc avec qui elle avait monté un business.
Donc un café à thème cochon d'Inde.
Voilà. Et ensuite, elle entretient une relation assez distante avec son père qui s'est remarié à la femme qui était censée être la marraine, enfin sa marraine.
Bonne ambiance.
She used to be our godmother.
But then their parents split up.
Mum died.
You really are very good looking.
Thank you.
Very.
Thank you.
Very.
Thank you.
Cette femme est une artiste très exubérante qui va prendre de plus en plus de place d'ailleurs au fil de la saison 1. Et on découvre également la sœur du personnage principal qui est très très présente. On a cette relation entre sœurs qui est longuement expliquée. Il y a beaucoup de choses qu'elles font ensemble. Et cette sœur-là est assez psychorigide, mais on retrouve quand même une certaine complicité entre elles, parfois forcée justement par le père qui leur prévoit par exemple des activités ensemble comme des retraites silencieuses ou des choses comme ça.
Oui, exactement, puisque le père donc leur paye des séances, des conférences sur le féminisme pour essayer de compenser la mort de leur mère, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Et c'est à ce moment-là que le personnage principal se rend compte qu'elle est une mauvaise féministe, y compris pour d'autres raisons qui seront dévoilées au cours de la saison qu'on ne va pas spoiler. Alors évidemment, cette série est féministe à la fois dans son propos, dans son personnage, ses rapports amoureux, mais ce n'est jamais mis en avant de manière très très évidente. Et d'ailleurs, la productrice explique à propos du personnage de Fleabag, son personnage est né d'une frustration face au manque de place laissée aux femmes pour s'exprimer, pour parler de leur sexualité, de leur regard sur l'amitié, de leur comportement au quotidien. Effectivement, je suis assez d'accord. Donc, personnellement, c'est ma série préférée de très longue date. Et c'est difficile d'exprimer à quel point, à mon sens, cette série est brillante, finement écrite, équilibrée, intelligente, à partir d'un matériau qui est somme toute assez banal et qui a été vraiment remâché à la télé. Pour moi, c'est un objet culturel qui est très, très au-dessus du lot. Et qui incarne vraiment la pure expression d'une subjectivité. Il faut dire que le personnage, même s'il ne fait pas très envie, est quand même assez nuancé. D'abord, c'est un personnage qui n'a pas de nom. Donc Fleabag, ça veut dire sac à puce, mais en tout cas, elle n'est jamais nommée dans la série. C'est aussi un personnage qui n'a aucun surmoi, donc elle n'hésite pas à se masturber devant les discours de Barack Obama. Qui fait tout ce qu'il ne faut pas, comme une vraie drama queen, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qui est aussi mythomane, kleptomane, voilà. Ce qui la rend très, très attachante. Et pour une critique aux États-Unis, c'est le personnage que Lena Dunham aurait voulu être dans Girls, mais voilà, en mieux. Moi, j'avoue que je m'identifie pas mal à ce personnage qui est très impulsif, et d'ailleurs, c'est un ressort narratif qui est très riche dans la série, puisqu'il y a tout le temps des rebondissements et que le spectateur ou la spectatrice est tout le temps surpris. Et d'ailleurs, l'autrice décrit son écriture comme ça. Chatouille, chatouille, coup de poing. Voilà, donc c'est un peu ça la recette du succès. C'est vrai que c'est un personnage qui est, en tout cas au début de la série, qui est brisé, qui essaie de garder la tête hors de l'eau en souriant, même si sa vie n'a presque plus aucun sens. C'est un rire désespéré qui mélange vraiment le trivial, donc tu le disais, les coups d'un soir, les blagues sur les paix, les tampax, et le sublime, donc une réflexion sur la solitude, comment être au monde, comment aimer, être aimé, pourquoi les rapports humains sont aussi difficiles et aussi bizarres. Voilà. Et alors toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, effectivement, moi je trouve que la série est assez facile à regarder, mais c'est vrai que j'ai un avis un peu plus un tout petit peu plus négatif, parce que je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. En fait, le personnage s'adresse à la caméra, à nous les spectateurs, donc parfois il explique ce qui va se passer dans la scène suivante, puis on voit la scène se dérouler un peu façon bref, mais je trouve en plus long. Et sinon, moi j'ai eu un peu de mal quand même sur la saison 1 avec cette obsession du sexe qui va un peu jusqu'à la zoophilie.
Mais ça ne se concrétise pas quand même.
Non, mais clairement, elle veut se taper tout ce qui bouge. Donc je trouve que ça gâche un peu d'autres facettes de la série qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressantes. Par exemple, il y a le rapport sœur-sœur, que je trouve très réaliste et très bien décrit, avec ces deux femmes qui se sentent pas particulièrement proches, compris des voix complètement différentes, qui, si elles n'étaient pas sœurs, je pense, ne se seraient peut-être jamais rencontrées ou n'auraient pas de points communs, et qui finalement se retrouvent, des fois avec l'appui du père qui leur paye des séances de méditation ou des choses comme ça, qui se rejoignent sur des souvenirs de famille, sur une complicité qui est un petit peu réchauffée, des « Ah, tu te souviens, on faisait ça quand on était petite, ah, telle odeur, ça nous rappelle tel truc et tout. » Donc ça, c'est assez, assez bien fait, je trouve. Mais il y a quand même un manque de diversité aussi dans la série. C'est censé se passer à Londres et je trouve qu'il y a quand même peu de diversité. Enfin, les personnages sont tous blancs, quoi.
C'est vrai. Et je pense que ce que tu dis sur le sexe, effectivement, c'est lié à peut-être un rapport assez morbide à la sexualité, qu'encore une fois, on ne va pas révéler pour ne pas spoiler. Mais c'est vrai que la première saison parle vraiment, c'est vraiment une comédie sur la dépression et le deuil. Et d'ailleurs, donc le personnage le dit elle-même, elle utilise le sexe de manière compulsive pour combler le manque affectif. Évidemment, c'est pas la seule à la télévision. On a déjà vu d'autres représentations de la maladie mentale, donc notamment les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs dans les séries Girls et Pure en ce moment en Angleterre.
Well, okay. And I guess it's classic to have to masturbate 8 or 16 times a night until your legs shake and you're crying and you're trying to make sure that your parents didn't hear you, so you check their door 8 times, then you move your toothbrush 64 times, then you move your dad's toothbrush 64 times, then you go back and forth between the two, moving each one 8 times until you've reached 64 times, but then you realize that that doesn't feel quite right either, and suddenly it's 3 in the morning and you're fucking exhausted and you go to school the next day looking like a zombie.
On a vu la maladie bipolaire représentée dans Homeland.
Carrie, you're not yourself.
Of course I am.
No. I can't follow you. You're talking very fast. Your thoughts are running together. All these ideas. I can't understand.
L'autisme dans la série Atypical.
Je suis un mec bizarre. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Parfois, je comprends pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent.
Les personnes souffrant d'autisme flirtent, tu sais.
Les filles ne me remarquent jamais vraiment. Je suis pas douée pour reconnaître les signaux.
Et alors, pour parler de la saison 2, qui est diffusée justement au mois de mai en France, tu seras ravie d'apprendre qu'elle est un peu moins désespérée que la première et qu'elle apporte quelques réponses, certes lapidaires, à l'histoire de ce personnage, à travers deux volets que sont à la fois la psychanalyse et la religion, puisqu'elle va vivre un amour impossible, sinon c'est pas drôle, avec un prêtre catholique. Très mignon.
Classique.
Joué par Andrew Scott de la série Sherlock.
No, you feel great, and even though your sister still hates you.
Thank you.
On va voir que Fleabag a essayé péniblement de rentrer dans le droit chemin, mais est-ce que ça suffira pour trouver la rédemption? On n'en est pas certaine au vu de la première saison. Mais en tout cas, c'est une saison qui commence par une baston et un nez cassé, donc elle ne peut pas être foncièrement mauvaise. Malheureusement, c'est toujours aussi court, il n'y a que 6 épisodes, ce qui est très frustrant, puisque moi j'attendais quand même cette deuxième saison depuis 3 ans, je crois. Et donc on retrouve toujours le même appareillage narratif qui dérape. Dans la première saison, c'était des flashbacks. Et là, dans la deuxième saison, c'est toujours le procédé dont tu parlais, un procédé théâtral qui n'est pas très souvent utilisé dans les séries. Je trouve que c'est particulièrement ringard dans House of Cards, quand Kevin Spacey fait des apartés aux spectateurs. Donc là, c'est un regard caméra qui vient vraiment briser le quatrième mur et donc qui s'adresse à nous, qui crée un rapport très intime. Et en fait, dans la saison 2, à travers ce dispositif, on comprend que les spectateurs sont les seuls amis en fait, de ce personnage.
Qui est donc... Et cette saison 2, donc, est moins dépressive. Est-ce qu'il y aura une saison 3?
Eh bien, alors, non, a priori, elle a dit qu'il n'y en aurait pas pour l'instant. Ce que je trouve très triste, puisque j'attends de voir une autre série capable d'autant de profondeur. Mais en attendant, on va peut-être pouvoir se consoler avec le remake Franchouillard, promis par Canal+, avec Camille Cotin. Moi, personnellement, je serre les fesses rien qu'à cette idée.
Ah ouais, non, moi je me dis que Camille Cotin, c'est peut-être la bonne personne, justement, pour cette adaptation. J'ai hâte. On va voir ce que ça a donné.
Bon, bah, on verra. En attendant, voilà, vous pouvez retrouver la saison 1 et la saison 2 sur Amazon Prime.
Et dites-nous ce que vous en pensez.
Ouais. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut Julie.
Salut Clem.
Quoi de neuf est une émission de Nouvelles Écoutes avec Clémentine Gallo
et Julie Amaïd.
Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux. Enregistrée par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Montage et mixage, Laurie Galligani. Coordination, Laura Cuissard, avec l'aide de Cassandra de Carvalho.